Sud Radio.
Jean-Marie Bordry.
Le grand référendum.
Faut-il protéger nos terres agricoles des investisseurs, notamment les investisseurs étrangers? En quelques mois, une entreprise chinoise qui achète à prix d'or près de 1500 hectares de terres agricoles. C'est dans le centre de la France, c'est dans le Berry, dans le département de l'Indre. Alors normalement, vous savez, en France, l'achat de terres agricoles est très encadré, très contrôlé. Mais l'investisseur chinois a profité d'une faille tout à fait légale. Il a acheté ses terres presque au double du prix du marché. Une pratique qui n'est pas forcément nouvelle, mais qui fait craindre la disparition à terme du modèle agricole familial. Notre invité justement à ce sujet, je vous le présente, c'est Guillaume Darouy. Bonjour Guillaume Darouy.
Bonjour.
Alors, vous êtes en charge du foncier au syndicat des jeunes agriculteurs, le Centre national des jeunes agriculteurs, dont vous êtes membre d'ailleurs du conseil d'administration. Guillaume Darouy, l'achat de terres agricoles, on le disait, est très réglementé en France. À chaque transaction, on doit demander l'avis de la SAFER, ces fameuses sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural. Si la SAFER n'est pas contente de la vente ou si elle n'est pas d'accord, c'est elle qui peut racheter, ce qu'on appelle la préemption. Là, dans le Berry, les terres achetées par le groupe chinois ont d'abord été transformées en société. Ça veut dire que les Chinois finalement n'ont racheté que 99 ou 98% des parts de ces exploitations. Et du coup, comme elles n'ont pas racheté 100%, eh bien la SAFER n'avait pas son mot à dire. C'est quand même assez astucieux comme procédé. Mais est-ce que cette pratique est courante en France, Guillaume Darouy?
Oui, bien évidemment, et c'est ce qui nous alerte. Hein. Aujourd'hui, vous dites qu'il y a une faille, c'est astucieux de la trouver. Lors de la loi d'avenir, nous avions clairement dit que ça allait être une faille et que certains allaient s'engouffrer dedans. Donc, le résultat est là, il est clair. Donc, maintenant, il faut réagir parce que c'est des jeunes qui ne peuvent pas s'installer. C'est un prix du foncier qui est tiré vers le haut du fait que ces gens ont des moyens autres que ceux du monde agricole.
C'est-à-dire qu'on parlait de précisément un prix à l'hectare, finalement, on va dire de 4000 euros, 5000 euros en théorie dans cette zone-là. Je donne un chiffre à la louche, mais c'est pour donner un ordre de grandeur à nos amis auditeurs. Et là, semble-t-il qu'on serait plutôt, que cet achat de terre par les Chinois tournerait plutôt autour de 10 à 11 000 euros, peut-être même plus. C'est vrai que quand un investisseur arrive et qu'il casse la banque, finalement, qu'il inonde le marché à coups de milliers d'euros, ça déstabilise complètement le marché, non, dans la zone?
D'un, ça le déstabilise, et puis de deux, ça donne toujours espoir à des propriétaires, à ce qui est humain et légitime, fin de compte, puisque là, en l'occurrence, ces agriculteurs étaient dans des positions financières très difficiles. Et l'appât du gain leur a fait que, je veux vendre comme ça, et quitte à bafouer même des principes moraux. Et c'est ce qui vient créer cette dynamique de surenchère et du propriétaire dans trois mois qui va vendre, on va dire, écoute, si ça n'est vendu à 12 000 euros à côté, je ne vois pas pourquoi je dois les faire à 4 000.
Mais oui, on peut se mettre à la place d'un agriculteur endetté qui approche de la retraite en pleine crise agricole. Et puis, il a toujours prévu de revendre son exploitation finalement à un jeune agriculteur qui voudrait s'installer pour lui mettre le pied à l'étrier. Et quelques mois avant sa retraite, un investisseur arrive avec une mallette pleine de billets, lui dit « Mais vous embêtez pas, moi je vous le rachète le double du prix ». Qui n'hésiterait pas à la place de ces propriétaires qui ont vendu à l'investisseur finalement? Ça paraît plus qu'humain, surtout dans la situation de l'agriculture. Mais justement, le renouvellement des générations d'agriculteurs, ça pose problème. C'est aussi pour ça qu'on vous a invité, Guillaume Darouy, puisque vous représentez les jeunes agriculteurs. En 2010, le ministère de l'Agriculture révélait qu'un chef d'exploitation sur 5 avait plus de 60 ans. Ça veut dire quand même une pyramide des âges assez défavorable, finalement. Est-ce que vous confirmez ces chiffres? Et dans ce cas-là, est-ce que c'est vrai que l'agriculture est vieillissante?
Oui, on ne peut que les confirmer. Et bien sûr, elle est vieillissante. Alors, c'est pas l'absolu, c'est pas dramatique. Si on arrive à renouveler les générations, c'est ça qui est important. Il faut qu'on trouve des jeunes déjà qui sont motivés pour y aller. Il y en a. Et puis derrière, il faut qu'on lève certains freins, notamment l'acquisition du foncier. Là, je vais m'adresser peut-être aux élus régionaux. Il y a le portage du foncier qui a été mis en place avec la région Midi-Pyrénées, le Crédit Agricole, la SAFER et les jeunes. Qui est un outil pour aider justement les jeunes à s'installer, c'est-à-dire d'avoir une première phase d'investissement pour tout ce qui est production, les bâtiments, le matériel, les animaux, le cas échéant. Et derrière, au bout de 7 ans, ils commenceront à payer leur foncier. Voilà. Et ça, c'est des outils qui permettent justement de porter le foncier, de renouveler les générations. Après, il faut aussi que les cédants fassent confiance aux jeunes. Et on essaye aussi de mettre des choses en place. Il y a des journées transmission qui sont faites en place. Avant, on faisait des journées installation. Puis on s'est dit qu'il fallait peut-être aussi qu'on explique aux cédants qu'est-ce qui pouvait être fait, quels étaient les avantages.
Puis les cédants, les exploitants, si on veut, qui cèdent leurs terres à la fin de leur carrière à des jeunes, notamment des jeunes exploitants. Oui.
C'est ça. Leur expliquer bien comme il faut que le statut de fermage est quand même quelque chose de très intéressant pour installer aussi des jeunes qui peuvent être eux-mêmes donc les porteurs du foncier. Et on a besoin de beaucoup d'outils. Et je pense qu'il y aura aussi des outils fiscaux à mettre en place pour les cédants, pour les inciter encore plus à donner des terres à des jeunes, plutôt que de se dire je vais faire la grosse cagnotte et de vendre à des investisseurs chinois qui, soyons clairs, leur but, il n'est pas d'installer des jeunes en France, il est de sécuriser leur alimentation.
Et oui, effectivement, donc ça c'est la crise alimentaire qu'on trouve dans beaucoup de pays de ce qu'on appelait dans le temps le tiers-monde, alors c'est plus du tout le cas notamment pour la Chine. Quoi qu'il en soit, des populations à nourrir, un manque de terres agricoles dans ces pays-là, beaucoup d'argent. On arrive en France où les terres sont plutôt bonnes, même très bonnes. On achète les terres quasiment à prix d'or. C'est ce qu'on pourrait penser quand on est agriculteur ou voisin d'agriculteur, mais en fait, pas si cher que ça. Quand on explique à quelqu'un qui habite à la ville qu'un hectare, ça coûte quoi, 5 000, 6 000 euros, un hectare, c'est pas si énorme que ça. Donc c'est vrai que c'est pas si cher. C'est pas si cher payé. Donc c'est un appel à spéculation un petit peu, la terre agricole. Est-ce que c'est, la terre agricole et la cible de la spéculation?
Bien sûr, ça va la devenir. Enfin, on parle de nourriture, on parle de vie. Donc, c'est des choses qui sont essentielles. Et si vous voulez, la force qu'on a eue toujours en France, c'est justement d'avoir des outils de régulation, dont la SAFER que vous avez citée, dont le schéma des structures, qui sert aussi à l'administration à mettre des priorités sur les droits d'exploiter. Du coup, toutes ces solutions ont permis d'un, réguler quand même le prix de la surface. Alors, vous dites, c'est pas cher. Oui, comparé à des pays, autres pays européens ou mondiaux. Il y avait le Forum mondial de l'accès à la terre il y a un mois. C'était un des sujets. Oui, c'est pas cher. Mais maintenant, ramenons-le au coût de production, c'est-à-dire ce que va coûter l'alimentation à la fin. Plus on va monter le coût du foncier, plus on va augmenter le coût de l'alimentation, et donc du panier du consommateur. Et c'est là qu'il faut aussi être prudent. On a des coûts de production en France qui sont plus élevés que dans ces pays-là, justement, liés aux normes, liés au social, parce qu'on respecte les salariés en France. Et toutes ces choses-là font qu'à la fin, même à 6 000 euros, le jeune, il n'arrive pas à sortir de revenus. On le voit, on est en pleine crise, c'est prouvé, c'est démontré. Donc il va falloir quand même se poser les bonnes questions des modèles de consommation et aussi de ce que veulent, fin de compte, les consommateurs.
Alors clairement, Guillaume Daroui, vous nous expliquez que finalement un exploitant qui approche de la retraite, qui est plutôt endetté, est clairement vulnérable face à un investisseur qui peut arriver du jour au lendemain et lui proposer de racheter ses terres au double du prix du marché finalement. Donc n'importe qui hésiterait. Malgré tout, quand vous nous dites qu'il faut aider l'accès à la terre, l'accès au foncier pour les jeunes agriculteurs, ça ne peut pas fonctionner sans aide. Si on laisse faire le prix du marché aujourd'hui, si l'État n'intervient pas, si la région n'intervient pas, ce n'est pas viable économiquement. C'est vrai, ça?
Ah ben oui, c'est une certitude. Et puis, il est clair que la libéralisation des marchés, il faut être très prudent sur ces choses-là, sur la nourriture, sur l'eau notamment. C'est pareil, c'est des points clés de la vie humaine. Donc, effectivement, il va falloir que l'État soit plus ferme sur la régulation du foncier. On a clairement demandé à ce que la faille qu'il y a, eh ben, elle soit bouchée rapidement, parce que ça va être ingérable. Moi, j'aurais même tendance à dire que c'est de l'utilité publique. Alors, des aides, bien sûr qu'il en faut comme pour tout, mais tout secteur d'activité est aidé. Le travaux public et le BTP, avec les subventions qu'on donne aux mairies, et j'en passe, c'est pas le débat. Mais donc, tout est aidé. Et justement, sur l'aide, c'est pareil, il y a quelque chose qu'on a demandé lors de la loi d'avenir, qui est le registre des actifs agricoles. Et c'est-à-dire qu'il y aura un registre dans lequel on déterminera qui est vraiment agriculteur ou pas, notamment ces investisseurs chinois, et qui conditionnera justement l'accès aux aides. Et ça peut être aussi un grand pas en avant. Je vais citer un exemple, je vais pas me faire des amis. La mairie de Toulouse exploite 300 et quelques hectares. Est-ce que c'est logique qu'une collectivité touche des aides PAC?
Oui, est-ce que c'est logique qu'elle touche finalement, qu'elle accède à la PAC? La reine d'Angleterre, on savait, c'était sorti aussi il n'y a pas si longtemps que ça, s'était fait épingler dans la presse européenne parce que précisément, elle touchait beaucoup d'aides. Hein, effectivement, des grandes familles royales qui possèdent énormément de terres, ça fait également beaucoup d'aides puisqu'on ne regarde pas forcément qui en a le plus besoin ou pas, Guillaume Daroui. Ceci dit, quand vous dites effectivement que l'agriculture est comme tous les secteurs, on est quand même un peu au-delà aujourd'hui. Regardez, ce n'est pas une critique d'ailleurs, mais c'est un fait. fait, dans quel secteur économique on ne pourrait pas vendre sans avoir l'autorisation d'un organisme pour vendre par exemple à son fils, pour vendre à son voisin. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le foncier. C'est justement cette petite faille que les Chinois ont réussi à contourner, dans laquelle ils se sont engouffrés plutôt. Mais l'agriculture est quand même extrêmement encadré. Je ne parle même pas des subventions ou autre chose. On est un peu dans le domaine de... Ça se rapproche presque plus de la culture, finalement, l'exception culturelle. On a une exception agricole. L'agriculture, ce n'est pas une marchandise, finalement, en France. C'est ça, votre position ?
Bah, bien sûr. Déjà, il y a des êtres humains. Derrière chaque agriculteur, il y a un être humain qui produit...
Il y a des agriculteurs derrière chaque secteur économique, quand même.
Oui, bien sûr. À la différence qu'aujourd'hui, l'agriculteur, il a des règles qui sont très encadrées, vous l'avez dit. Et puis, il y en a une dernière que personne ne maîtrise, et heureusement, c'est la météo. Et tout ça, ce sont des facteurs qui rendent la profession très compliquée. C'est un métier très dur à exercer. Vous avez des années où c'est que vous allez arriver à vous rémunérer correctement. Il y a des années, cette année, on a les résultats. C'est pas joli du tout. On n'arrive même pas aux 700 euros par mois par exploitant. Donc, c'est quand même assez dramatique pour le nombre d'heures qui est réalisé. Après, voilà, l'encadrement, il faut un minimum sur ces choses-là. Moi, j'en suis persuadé que ce soit sur la partie environnementale, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi comme il est fait dans certains pays, que ce soit sur notamment aussi les modèles de production, il y a des choses à faire. Après, je suis persuadé qu'il ne faut pas opposer les différents modèles de production aussi, parce qu'il faut de tout pour nourrir. Et au nombre de personnes qu'on a qui est croissant, qui n'est pas décroissant pour l'instant, il va falloir toujours qu'on essaye de trouver de nouvelles méthodes pour arriver à mieux rentabiliser justement le foncier.
Alors merci Guillaume Darouy, je rappelle que vous êtes membre du conseil d'administration des jeunes agriculteurs, vous êtes en charge du foncier, le spécialiste foncier du syndicat. Dans quelques instants justement, on va revenir sur la différence entre ces différents systèmes agricoles, le modèle familial que défend surtout jeunes agriculteurs et puis le modèle industriel aussi qui existe et qui peut créer des emplois ou en tout cas produire de manière intensive.
Sud Radio,
Jean-Marie Bordry,
le grand référendum.
Faut-il protéger les terres agricoles contre les investisseurs et notamment les investisseurs étrangers, les investisseurs chinois, comme ceux qui ont acheté plusieurs centaines et des centaines d'hectares dans le centre de la France il y a quelques semaines finalement. Des investisseurs qui ont acheté des centaines d'hectares au nez et à la barbe du gendarme du secteur et du foncier, la SAFER. On est avec Guillaume Darouy, qui est membre du conseil d'administration des jeunes agriculteurs, également en charge du dossier foncier. Un dossier stratégique, si on peut dire finalement, parce que tout le problème pour les jeunes agriculteurs, notamment, et ceux qui veulent débuter, eh bien, c'est d'accéder à la terre. Et accéder à la terre, c'est pas si facile, surtout si du jour au lendemain, vous vous retrouvez en concurrence avec des entreprises qui sont prêtes à payer le double du prix du marché et à mettre en marche finalement des exploitations grandes comme 10 fois les exploitations familiales auxquelles on est habitué. Mais justement, Guillaume Darouy, est-ce que c'est pas un modèle contre un autre? Est-ce qu'on est obligé d'avoir un modèle agricole français qui repose sur des exploitations familiales de taille moyenne, avec le père finalement qui cède à son fils ou alors qui cède à celui du voisin si jamais le fils n'est pas agriculteur? Ou est-ce qu'on peut faire cohabiter l'agriculture familiale avec des exploitations moyennes à côté de grosses exploitations qui, elles, ont besoin de capitaux finalement pour naître?
Cohabiter, je pense quand même qu'on est assez grand pour toujours cohabiter. Maintenant, je pense pas que ça soit un modèle qui soit raisonnable, que ça soit pour la qualité alimentaire ou même pour la sécurité alimentaire. Parce que, qu'est-ce qui va se passer si vous avez plus que 4 personnes qui gèrent l'alimentation française, hein, 4 grosses exploitations, ou je sais pas comment on peut les appeler, multinationales? C'est eux qui feront la pluie et le beau temps. On le voit. C'est déjà ça avec la GMS. Ils sont 5 en Europe. Ils font la pluie et le beau temps, déjà. Et ces gens-là, alors ça me tracasse encore plus et c'est encore plus dangereux, c'est-à-dire des gros groupes comme Intermarché ou Leclerc souhaitent eux aussi acquérir du foncier pour se rendre, comme ils le disent, dans certaines pubs comme Carrefour producteur. Et ça, là, on atteint des limites. Quand on a un modèle familial, on a beaucoup plus d'emplois, on a beaucoup plus de familles qui vivent là-dessus et automatiquement, on a quand même un risque qui est partagé. Et c'est aussi ça que nous, on défend, c'est d'avoir aussi des territoires qui vivent. Aujourd'hui, si vous n'avez pas toutes ces exploitations familiales sur les territoires ruraux, il n'y a plus de vie. C'est essentiel. Alors, pour nous, c'est plus qu'essentiel de faire vivre nos territoires et de produire de l'alimentation qui est de qualité en plus.
Oui, une alimentation de qualité, finalement. Vous êtes en train de nous dire aussi que, est-ce que c'est vrai, Guillaume Darouy, que l'agriculture industrielle, celle qui est symbolisée par cette fameuse ferme des 1000 vaches dans la Somme, C'est une alimentation qui est mauvaise. Est-ce que c'est vraiment parce qu'on entasse 1000 veaux, ou plutôt qu'on réunit 1000 veaux ou 1000 vaches, que la viande ou que le lait seront moins bons que ceux des exploitations familiales?
Non, le débat, je pense qu'il n'est pas à savoir la grosseur de la taille de l'exploitation. Vous pouvez avoir des exploitations familiales qui ont 1000 vaches. Je ne vois pas où est le problème. Quand vous avez deux frères, un neveu, un cousin et un voisin qui se disent « j'en ai marre de trimer chacun, moi, de mon côté, avec des salles de traite vieillissantes, les 5 ou 6 qui sont, des outils de production qui ne sont pas performants », de se dire « si on s'associe entre frères, entre cousins, je le rappelle, entre voisins, donc on est quand même dans du familial, du local, et de se dire « on va investir dans un outil de production qui est performant, qui va nous permettre d'avoir une vie sociale ». Parce que vous savez, quand des agriculteurs, notamment des éleveurs, voient des gens aller se battre dans la rue parce qu'on va les faire travailler 37 heures au lieu de 35 heures,
ça leur fait tout drôle,
ça leur fait assez bizarre, quoi, surtout pour 700 euros par mois, quoi. Donc du coup, tout ça, des agriculteurs et des jeunes notamment se disent, on va s'associer pour avoir des outils de production qui nous permettent d'avoir une vie sociale, d'avoir un revenu correct, de se mettre aux normes par rapport aux règles environnementales. Donc, moi j'ai tendance à dire, peu importe la taille, ce qui compte c'est les mentalités qu'il y a derrière et les personnes qu'il y a derrière. C'est le nombre d'actifs, c'est le nombre d'agriculteurs qu'il y a dans ces exploitations. C'est pas parce qu'elle fait 1000 hectares, s'il y a 7 jeunes qui sont installés dessus, je vois pas le problème. Si c'est une multinationale ou un investisseur privé, il y a une personne derrière. Une personne qui se gave, pas 7. Qui essaye de vivre.
Une personne qui se gave, ou alors quelques actionnaires, finalement, Guillaume Darouy, du syndicat des jeunes agriculteurs, qui nous explique finalement qu'il vaut mieux quand même un modèle agricole familial où la famille, ou disons le groupe d'agriculteurs, sait à peu près ce qu'il fait et contrôle son travail, plutôt qu'un modèle agricole où vous avez un PDG loin, très loin, et plusieurs salariés qui n'ont pas leur mot à dire finalement. Dans quelques instants, on va parler avec vous, Guillaume Darouy, du grignotage des terres agricoles, pas par les entreprises, mais par la ville, parce qu'effectivement, on a parlé du prix de l'hectare. C'est déjà pas cher quand on le compare à celui au prix que les Chinois sont prêts à mettre. Mais alors, quand on le compare au prix de l'immobilier, là, effectivement, la différence est énorme. On se retrouve après une courte pause.
Sud Radio, le grand référendum.
Jean-Marie Bordry.
Faut-il empêcher les investisseurs étrangers d'acheter les terres agricoles françaises? Pour l'instant, sur sudradio.fr, vous plébiscitez cette idée finalement défendue par notre invité Guillaume Darouy des jeunes agriculteurs. Faut-il empêcher les investisseurs étrangers d'acheter les terres agricoles? Vous répondez oui à 94% d'entre vous sur sudradio.fr. Vous voyez, Guillaume Darouy, l'agriculture est quand même très très populaire en France, même s'il y a de moins en moins d'agriculteurs. Finalement, ça reste quand même un mythe fondateur. C'est un peu les deux mamelles de la France, pâturage et labourage. Alors, on parlait il y a quelques instants du grignotage des terres agricoles. Effectivement, en France, on a près de la moitié, vous allez corriger moi si je me trompe, mais on a près de la moitié du territoire qui est constitué de terres agricoles. On a près de 30% également de forêts, finalement. Et malgré ça, le grignotage par la ville continue, puisque les villes continuent à grossir avec la population qui augmente. Les jeunes agriculteurs avaient un slogan, il y a quelques années, qui affirmait que la France perdait chaque seconde 26 mètres carrés de terres agricoles. C'est toujours d'actualité ou pas, ce slogan, ce chiffre?
Oui, c'est toujours d'actualité. Il y a eu quand même des efforts faits par les collectivités et l'administration. Il y a eu une baisse de la consommation, une réorientation, une réorganisation. Mais on considère que ce n'est pas encore assez suffisant. Des exemples, malheureusement, on en a à l'appel. C'est ce qui est dramatique. Et certes, certains élus ont pris conscience de l'enjeu, mais d'autres n'ont pas encore pris conscience de l'enjeu et préfèrent encore céder à la démesure, aux choses non réfléchies, et plus souvent à la corruption et au dessous de table. Il faut être très clair, quand on rentre dans des marchés fonciers immobiliers, on rentre dans une sphère qui est assez particulière.
Dans toute la région de France, vous êtes en train de nous dire, vraiment, le foncier agricole, l'achat de terres agricoles, c'est source de corruption ou prétexte à corruption, on va dire ça comme ça?
Selon les secteurs, oui, surtout en périurbain. Soyons clairs, quoi. Dès qu'on est proche des grosses agglomérations, oui, c'est très compliqué. J'ai un exemple, vous allez sur la commune de Nice, dans les Alpes-Maritimes. Il faut savoir que le coût du foncier, il est entre 30 et 80 euros le mètre carré de terre agricole.
Agricole, oui.
On parle de 300 à 800 000 euros l'hectare. Et tout à l'heure, on était à 4 000, 10 000.
Oui, c'est pas rentable de planter quelque chose. Hein.
C'est de la folie.
Par une maison.
Oui, et même à ces prix-là, c'est au-delà du prix du constructible qu'on peut avoir dans certains milieux ruraux. Quoi. Donc, on voit bien qu'il y a une démesure amenée, par notamment là-bas, par l'argent, et qui derrière, il y a eu des formes de corruption, puisque des terres protégées agricoles arrivent quand même à avoir des changements de destination et autres. Donc, voilà, on cherche toujours à, voilà, le mec qui arrive toujours pareil avec la grosse mallette de billets, et si possible en liquide, ben, il est toujours bien accueilli par certains élus, quoi.
Oui.
Et ça, c'est pas normal. Il faut qu'on s'efforce à densifier, dans les communes, à utiliser mieux l'espace, hein, à le faire plus intelligemment. Et pas en faisant chacun un petit peu, comme on dit, chaque élu veut son petit joujou, sa petite zone commerciale, sa petite zone verte. Puis après, qu'est-ce qu'on voit? Ben, notamment autour de Toulouse, hein, vous avez des zones qui sont pas remplies. Et on va en créer d'autres à côté. Voilà, ça, il faut.
C'est ce qu'on appelle le mitage du paysage, finalement. En même temps, Guillaume Daroui, le modèle agricole, finalement, les terres agricoles, ça participe du paysage français. Donc, pourquoi on ne pourrait pas réfléchir également à un statut qui permettrait de dire ces terres agricoles, on n'y touche pas. Non seulement c'est pour continuer à produire et à nourrir la population, mais également c'est pour sauver le paysage. Ça pourrait se faire.
Ben, nous, c'est quelque chose qu'on défend depuis longtemps. On voudrait une vraie loi sur le foncier. Aujourd'hui, on voit que le foncier il est traité à travers différentes lois, la loi d'avenir, la loi Sapin 2, tout un tas de lois qui peuvent interférer sur le foncier. Nous, ce qu'on voudrait, c'est une vraie loi sur le foncier. Effectivement, il y a des milieux qu'il faut qu'on sanctuarise. On ne parle même plus de protection, on sanctuarise, au même titre qu'on le fait pour l'environnement. Aujourd'hui, la démesure, d'ailleurs, elle est là. C'est que pour l'environnement, on serait prêt à tuer. Pour le foncier agricole, bon, c'est moins gênant. J'ai un chiffre, moi, qui me marque quand même assez. La forêt, en 100 ans, a doublé. Et donc, aujourd'hui, quand on parle de perte de terres agricoles, ben, c'est par l'urbanisme et c'est aussi par la reforestation.
Alors, vous appelez carrément à couper des arbres ou à déforester, si, je ne suis pas sûr que le terme soit bien français, mais vous appelez à une forme un retour d'une petite déforestation en France, un défrichage pour récupérer des terres agricoles.
Pas spécialement à défricher, mais il faut qu'à chaque fois, on se pose les bonnes questions. Aujourd'hui, vous prenez un exemple tout simple. On va faire un projet à côté de Toulouse, qu'on va appeler anciennement les portes de Gascogne ou Val Tolosa, par exemple. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On fait une étude d'impact, on regarde. Le milieu environnemental est touché. Donc, effectivement, il y a des règles pour ça. Donc, il faut qu'on mette en place des compensations.
Et du coup, on plante des arbres.
Et on les prend sur les terres agricoles. Donc, l'espace agricole, il a perdu un premier coup pour faire le projet, et il perd un deuxième coup pour la compensation. Attention, pour nous, un espace agricole est un espace environnemental. Soyons clairs, il y a de la biodiversité, il y a de tout.
Et Guillaume Daroui, membre du conseil d'administration des jeunes agriculteurs en charge du foncier, qui nous explique qu'aujourd'hui, finalement, les agriculteurs sont souvent les dindons de la farce entre la pression immobilière, la pression commerciale et l'impératif environnemental. Faut-il empêcher les investisseurs étrangers d'acheter des terres agricoles? Vous répondez oui à 94% d'entre vous sur sudradio.fr. Dans un instant, on va parler de tout autre chose, de la négociation sur l'assurance chômage. Et si on privatisait l'UNEDIC, 0826 300 300.